Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Eh bien, en ces jours de rentrée, il faut reprendre les bonnes habitudes, n'est-ce pas, Cécile ?
Eh oui, tout à fait, Martine. Bonjour.
Alors voilà, Cécile Carrier, vous l'avez reconnue. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas entendu sa douce voix et on attendait ses commentaires. Mais sachez qu'elle travaille énormément et sachez qu'elle fait plein de découvertes. On vient d'en parler hors micro. Et peut-être que nous en bénéficierons lors d'une émission future. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler en balade au Musée de la Romanité ?
Alors aujourd'hui, j'avais envie, enfin aujourd'hui, je pense que ça va nous tenir quelques séances, j'avais envie de vous parler du décor sculpté dans la maison. Quand je dis la maison, au sens large, et dans le jardin, le péristyle.
Donc nous sommes au cœur des réalias, mais au carrefour de l'art tout de même.
Tout de même, voilà. Alors, ce que je pense qu'on pourrait faire, parce que c'est quand même un sujet assez vaste, on va faire par petites tranches
et thèmes.
Avec des typologies, des thématiques. Je crois que ce sera le plus simple.
Voilà.
Parce que ce décor, mine de rien, est très riche. Et au Musée de la Romanité, on a quand même beaucoup d'objets qui peuvent s'y référer, même si on n'a pas toujours les lieux de provenance.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ce qui fait que quand on les trouve, eh ben, il y a des petites choses à modifier après, sur les cartels.
Et voilà, exactement. Voilà. Nous sommes en plein dedans, d'ailleurs. Donc, le décor donc, des maisons romaines ou des appartements, hein, puisqu'il y avait
et oui,
des...
Et on croit toujours les connaître, mais on passe devant sans vraiment s'interroger. Donc, c'est le jour aujourd'hui de bien s'y intéresser.
Voilà. Donc, quand je dis maison, ça peut être on devrait dire l'habitat, c'est-à-dire qui couvre aussi bien la maison que l'appartement, puisqu'on sait aujourd'hui, grâce aux fouilles, que même les appartements pouvaient être assez richement décorés. Hein. Il y avait des gens qui avaient les moyens d'avoir une maison, mais qui préféraient habiter dans des appartements. Donc, il ne faut pas s'imaginer toujours la grande villa, comme on voit parfois dans les documentaires ou dans les articles.
Oui, et pas seulement en province, à Rome aussi.
Pareil, exactement. Donc, dans les habitats, selon les moyens des personnes, hein, les moyens financiers, on peut avoir un décor assez riche.
Et peut-être dans la mode romaine, on cherche à imiter
Alors,
Rome.
Alors, ça, c'est sûr. On cherche à imiter la Rome romaine. Il y a des articles, entre guillemets, qu'on peut acheter ou commander. On est vraiment dans le même système que chez nous au jour d'aujourd'hui. Hein.
C'est et le on même voit dans principe. Certains musées aussi que des objets sont réutilisés d'une maison à une autre. On peut les revendre.
Alors, les objets sont facilement transportables. Hein. Surtout les décors de maison, c'est souvent des objets de taille moyenne ou voire petite. Hein. On en verra un certain nombre lors de nos émissions sur le sujet.
Et d'ailleurs, il faut rappeler que parfois, lors de fouilles, je parle de la Campanie, de Pompéi, etc., on était surpris de trouver les maisons vides, mais ce n'est pas si surprenant que ça, parce que quand on part de sa villégiature d'été, on emmène ses meubles.
Alors, on emmène ses meubles. Et alors on a quand même trouvé beaucoup de petits décors hein, quand même dans les maisons pompéiennes. Et c'est grâce d'ailleurs à ces découvertes que je peux aujourd'hui, enfin que les chercheurs peuvent identifier dans les régions qui ont dans lesquelles on ne peut pas toujours avoir les objets avec une provenance. C'est ce qui nous aide à pouvoir dire bon, cet objet est plutôt de la panoplie domestique que de la panoplie publique. C'est d'ailleurs ce que je fais moi au Musée de la Romanité. Hein. Je dis pas cet objet, vu son thème, vu sa dimension. Vu qu'on en a trouvé des quasi similaires ou dans le même genre à Pompéi, à Herculanum, on peut supposer qu'il provient d'une maison.
Oui, c'est Oplantis qui était vide quand on l'a découverte.
Voilà. Et donc, on verra aussi que certains objets issus de nécropoles peuvent aussi se référer à un décor de maison, puisqu'il n'y a guère de différence finalement entre un décor de nécropole et
la vie continue.
La vie continue. Exactement. On fait un duplicata dans la mort. De sa maison, de son décor. On part avec son décor, avec ses thèmes favoris, etc.
Et ça date des Étrusques aussi, puisque je me souviens avoir vu des traces en terre cuite de petits chaussons, comme si la personne allait se lever de sa couche et partir avec ses chaussures.
Oui, on amène avec soi ce qu'il faut. Ouais. Alors, quand on parle de la sculpture dans le milieu privé, il ne faut pas oublier que ce décor sculpté n'est pas tout seul. Hein. Donc, je le rappelle, tout le monde connaît la mosaïque au sol, souvent, la peinture sur les murs. Donc ça, il ne faut pas oublier tout ce décor très riche pour les maisons les plus évidemment sophistiquées. Ne pas oublier également qu'il existe des tableaux peints, depuis la Grèce, ça existe. Donc, un décor qui est très riche, déjà très chatoyant.
Et ce décor nous aide même parfois, quand on fait des fouilles, à reconnaître les pièces. Quoi, parce
oui,
que selon le décor,
oui,
on sait où on est.
On peut savoir exactement. On oublie aussi souvent que dans les maisons les plus, on va dire, les plus notables et les plus aristocratiques, on peut aussi avoir l'exposition de la vaisselle de luxe, de la vaisselle d'apparat, sur une belle table, un beau guéridon, par exemple. Donc là aussi, on est dans du chatoyant. Souvent, c'est de la vaisselle ou en pierre colorée, ou en bronze coloré également, ou en argent. Donc imaginez quelque chose de très clinquant. Hein. Là, on est dans du baroque. Donc, il faut imaginer ce décor sculpté au milieu de tout ça. Donc, il se rajoute. Alors après, il faut imaginer aussi des rideaux. Voilà, hein, donc là,
pas les petits rideaux qu'on a, mais des tentures très lourdes.
Bah, oui, des tentures, voilà, souvent avec des couleurs assez chatoyantes, chaudes, etc. Donc voilà, là, on est vraiment, là, j'essaye de vous montrer un petit peu.
On est dans le décor, là.
Dans le décor, voilà. Donc, imaginez plutôt Versailles que quelque chose de très sobre. En tout cas, pour ceux qui en ont les moyens. Et ceux qui n'en ont pas, ils essayent de faire au maximum
à l'imitation.
Donc, ce décor sculpté, moi, je l'ai divisé en deux grosses parties. La première partie étant plutôt la statuaire, hein, c'est là-dessus qu'on va surtout parler, donc avec tous les personnages représentés, que ce soit les divinités, les petits animaux, etc. Ça, on le verra au fur et à mesure, je ne vais pas le développer maintenant. Et l'autre grand groupe, ce sont les éléments décoratifs suspendus ou posés. On en verra un certain nombre, comme les oscillas,
exactement,
par exemple. Mais on a également tout le mobilier orné. Alors, malheureusement, je n'ai pas d'exemple à vous donner pour Nîmes,
oui.
C'est bien dommage. Mais il ne faut pas oublier qu'on avait les tables, les bancs, les sièges, les vasques, les vases, les guéridons, les trépieds, les lits, les lits notamment qui pouvaient être en bronze sculptés. On en a qui sont recouverts d'ivoire ou d'os, également gravés, sculptés. Donc, imaginez tout ça. Des candélabres également qui sont sculptés. Donc, tout ce petit mobilier, donc je n'ai pas vraiment beaucoup d'exemples, malheureusement, à citer au niveau de Nîmes. Il faut imaginer que tout ce mobilier en marbre, en os, en ivoire, en bronze, je l'ai dit,
oui.
Tout ça très coloré, hein, à part l'ivoire qui n'est pas très coloré, mais sinon tout le reste très coloré. Il faut imaginer qu'il y a tout ça aussi en plus. Voilà, donc ça nous fait quelque chose dans les maisons les plus cossues. C'est quelque chose de très lourd comme décor.
Et avec ça, on ne peut pas en parler aujourd'hui, des candélabres, des jeux
voilà,
sur les lumières.
Toutes ces choses-là, les candélabres, on peut avoir d'immenses candélabres en bronze ou en marbre sculptés, entièrement sculptés. Hein, c'est magnifique, hein, ce sont des œuvres splendides. Et donc tout ça, en fait, en général, ce sont des objets qui ne sont pas choisis par hasard. Ils sont choisis par les maîtres de maison, bien entendu. En fonction de leur goût, nous sommes d'accord, en fonction de la mode,
oui.
Surtout, parce qu'il
oui.
faut faire comme à Rome, il faut faire comme chez les autres. Mais aussi, on peut introduire dans ces décors, ce qu'on a vu pour le décor public, une volonté, soit d'unifier, soit de créer des thématiques qui peuvent se répondre ou se compléter. Et donc, on va parler là aussi de programmes iconographiques. On en a parlé souvent quand on parle de la statuaire publique, officielle. Et bien, dans les deux grandes demeures, on a également des programmes iconographiques qui existent. C'est-à-dire que là, le choix des décors se fait en fonction vraiment de ce que les maîtres de maison veulent exprimer par rapport à leur famille, leur volonté politique, leur attachement à tel empereur, mais aussi... pour montrer leur culture, le fait qu'ils soient cultivés, qu'ils connaissent la culture gréco-romaine, qu'ils connaissent tout ce qui fait un homme notable, un homme remarquable, un citoyen modèle.
Donc, oui, un boulanger peut être lettré avec son matériel pour lire.
S'il est lettré et s'il est assez riche pour construire une balle villa, hein, parce qu'on connaît comme le boulanger,
oui.
Il s'appelle... j'ai perdu son nom au moment où je voulais le dire.
Proculus
Non, un autre qui s'est fait construire un immense tombeau à Rome.
Ah oui, oui, oui.
vous voyez qui je veux dire, mais oui. Bon, peut-être quand on retrouvera le nom avant la fin de l'émission. Cet homme-là, à mon avis, il n'avait pas un petit appartement minable. À mon avis, s'il s'est fait construire un immense tombeau,
un mausolée,
il devait certainement avoir. Et lui, c'était un boulanger, mais un boulanger à la manière industrielle, on dirait aujourd'hui. Donc, effectivement, il suffisait d'avoir les moyens financiers pour pouvoir se faire construire une belle maison avec un décor très riche.
Au décor extérieur, le jardin, la piscine, voilà.
Et c'est surtout un écho au décor officiel. Que l'on trouve, que l'on connaît, hein, puisque évidemment les modèles circulent. On veut faire comme à Rome, mais on veut faire surtout comme l'empereur ou en tout cas les membres de la cour impériale. On veut être au plus près. C'est ça qui fait riche et qui fait opulent. Hein. C'est normal. Enfin, l'être humain a toujours cette volonté de vouloir montrer.
De paraître.
Et de paraître. Hein. C'est dans notre, c'est dans notre inconscient et dans notre conscience.
Dans nos gènes.
Voilà, voilà pour essayer d'introduire un petit peu et de contextualiser ce décor sculpté hein, pour ne pas imaginer que ces œuvres elles tombent comme ça, plouf, dans du vide. Hein, oui. Elles ont tout un contexte que malheureusement, nous, on ne retrouve pas toujours.
Oui, c'est une construction en fait. Voilà. Une construction domestique.
Voilà, exactement.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à l'attention de nos auditeurs qui auraient envie au Musée de la Romanité de voir ces objets de la maison?
Alors, je ne sais pas si j'ai fait un bon choix, mais je me disais qu'on pouvait peut-être commencer par le culte domestique. Parce que souvent, chez les gens, le culte domestique, c'est un peu flou. On en a parlé au moment de l'exposition culte impérial. Oui. On avait la toute dernière section qui était un peu cachée. Justement, on avait fait exprès un peu de cacher les deux petites vitrines qui s'y rapportaient. Ce culte domestique est assez complexe. Parce qu'il est assez varié, parce qu'en fait, il dépend des familles, en fait. Hein. Souvent, les gens pensent larère, parce qu'on a beaucoup parlé de ces larères, alors que souvent, le larère ne correspond qu'au culte des lares, qui sont des divinités bien particulières. Mais il y a d'autres divinités qui sont vénérées dans le culte domestique. Donc, le culte dans les maisons est assez riche et varié. C'est pour ça que je me disais qu'on allait peut-être passer un petit moment là-dessus.
D'accord.
Voilà.
Eh bien, je propose, avant que nous passions ce petit moment, de faire une petite pause musicale. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette première émission.
Voilà. À tout à l'heure.
Alors, Antiquissimo sur Radio Alliance Plus, bien entendu, et avec Cécile Carrier, que nous retrouvons avec bonheur. Elle nous guide dans notre manière de regarder les objets, pas que, mais essentiellement au Musée de la Romanité.
Tout à fait. Bon, on essaie quand même de mettre en valeur le Musée de la Romanité. Exactement. Mais c'est vrai que parfois, j'ai besoin du support des autres musées
pour comparer, pour compléter.
Pour comprendre, exactement. Donc, on a dit qu'on allait parler du culte domestique. Alors, le culte domestique peut se présenter dans différents lieux de la maison, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. On peut l'avoir dans les pièces centrales, hein, notamment l'atrium, alors la pièce d'accueil, mais on peut l'avoir aussi dans des pièces domestiques à l'arrière, à côté de la cuisine.
Oui, dans le bureau du maître
Pas forcément, non. Le maître, ça va être plutôt dans les pièces plus ostentatoires quand même, mais on peut l'avoir dans l'atrium, on peut en avoir dans le péristyle, par exemple. On peut en avoir, parce que la domesticité peut avoir aussi son lieu de culte.
Oui, bien sûr.
Alors, la domesticité va accompagner les maîtres dans le lieu, dans le culte général de la famille, mais va aussi pouvoir avoir son culte plus personnelle, dédiée qu'à la domesticité.
Oui, et selon ses origines, voilà, avec donc, des variantes.
C'est pour ça que je dis le culte domestique dans la maison peut être assez varié en fonction des familles. Alors souvent, on pense à...
Mais dans le tablinum aussi, on doit trouver des objets qui montrent la richesse du maître.
Oui, bah, oui. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément dans le tablinum qu'on va avoir le lieu de culte. C'est vrai que... J'essaie de réfléchir si j'en ai déjà vu. Je ne suis pas certaine dans le tablinum. Je dois m'y reconnaître. Et donc, le culte peut se faire alors, sur un petit autel. Il y en a des fois qui peuvent être plus grands. On peut avoir une simple niche aussi. Hein, on en a trouvé à Pompéi. On peut avoir une simple peinture aussi sur un mur. Sans plus. Mmh. Aussi, ça peut être très sobre. On peut avoir des choses plus grandes sous forme d'un petit édicule construit. Souvent, donc, on a des statuettes, hein, des petites figurines, c'est souvent des toutes petites choses qui sont mises là et qui servent de support à la vénération. On peut avoir aussi des petites lampes hein, qui portent l'image de la divinité et qu'on allume. C'est là où on brûle les petites offrandes, voilà. Et puis on fait le culte lui-même vraiment des maîtres du Dominus et de la Domina. Alors, il faut savoir aussi, ça je l'ai lu il n'y a pas longtemps en étudiant les larères notamment de Pompéi, c'est qu'on a retrouvé des petits trous de clous sur certains larères dont les contours étaient en bois. Et on a supposé qu'il y avait des décorations de guirlandes qu'on a accrochées.
Ah, oui.
Donc ça, j'ai trouvé ça sympathique comme petit détail. Alors, les divinités qui sont honorées. Donc, on a parlé des lares, les lares familiaux, hein, on appelle, qui sont donc vraiment les divinités tutélaires de la famille, de chaque membre, les membres morts et vivants, hein, les deux, et à venir aussi. Ça, je ne savais pas, je l'ai lu aussi il n'y a pas longtemps. Les autres divinités, alors malheureusement, on n'a pas de lares hein, au Musée de l'Art Humanité, donc c'est pour ça que je passe vite, je ne peux pas vous en montrer. On a également ce qu'on appelle les pénates.
Exactement.
Alors, au départ, étaient là pour protéger les provisions. Et puis,
oui, parce que souvent, on confond les dieux lards à cause du mot lard, peut-être LARD, qui n'a rien à voir. Mm. Mais les dieux lards ne sont pas concernés par ça. C'est les pénates.
Du tout, c'est les pénates.
Qui protègent tout ce qu'on va manger.
Oui, exactement. Les provisions, tout ce qui est les lieux de conservation aussi. Hein, c'est les lieux et les provisions. Et en fait, après, ça s'est étendu aussi aux gens. À la demeure, aux résidents, mais au départ, à l'origine, c'était vraiment les provisions. Après, on a parlé pour le culte impérial, on a le génie du maître et la Junon de la maîtresse. Alors, quand je dis maître et maîtresse, dans le sens de Dominus et Domina, voilà. Hein, vraiment le père de famille et la mère de famille.
Et ceux qui gèrent la domus, en
qui,
fait.
Qui hein. gèrent la domus, voilà. Alors, ces génies et ces Junons sont les protecteurs du maître et de la maîtresse, et aussi leur double divin. C'est quelque chose qui est un peu flou hein, dans notre esprit, on a un peu de mal. Donc là, tout le monde dans la famille, et quand je dis la famille, c'est la famille au sens large, c'est-à-dire y compris les domestiques,
bien sûr,
doivent vénérer ce génie et cette Junon. Alors là aussi, pareil, comme pour les pénates et les lards, nous n'en avons pas de traces, malheureusement, au musée. C'est très difficile hein, d'en trouver, de toute façon. Hein. Il y en a très peu dans l'Empire qui ont été retrouvés. Ensuite, on a la déesse Vesta.
On peut supposer que ce sont des objets tellement quotidiens qu'on n'y fait même plus attention et qu'ils vont disparaître comme ça.
Je ne sais pas comment ça se fait, surtout qu'on a retrouvé plein de figurines. Donc, je ne sais pas pourquoi on ne retrouve pas dans l'Empire, pourquoi on en a trouvé si peu.
Oui, parce qu'on aurait pu imaginer, mais on les aurait trouvés, qu'ils soient enterrés justement pour...
On a trouvé d'autres choses enterrées, mais pas forcément ça. Ensuite, il y a Vesta. On oublie souvent.
Très important.
Mais Vesta, donc, ce sont les mini-cultes de Vesta. Le grand culte de Vesta est à Rome.
Les Vestales, hein, bien sûr.
Voilà, tenu par les Vestales. Mais dans chaque maison, on a un culte à Vesta, puisque Vesta, c'est la protectrice du foyer.
Voilà.
C'est-à-dire, le foyer, celui qui reçoit le feu de la maison. Et le feu, il sert à tout, à se réchauffer, à éclairer, à faire à manger. Donc, le foyer est vraiment au cœur de la maison.
Et on la représente assise, justement, parce qu'elle est indétrônable. Ah. C'est celle qui assure la permanence de la maison.
Voilà, généralement, c'est le culte féminin par excellence. On a aussi le culte des ancêtres. Les images des ancêtres. Là, on est sur ce qu'on appelle la gens, la lignée familiale, qui donne à la famille son prestige, on va dire. Hein. plus la lignée est ancienne et plus la famille est prestigieuse. Et donc là, on a des portraits également. Donc là, ce culte peut être réalisé dans d'autres lieux que le Larère. Hein. Donc vous voyez, on peut avoir... Après, le Larère peut avoir les Lares plus les autres, mais on peut avoir aussi le Larère d'un côté et les autres divinités ailleurs. On a aussi l'empereur et les membres de sa famille divinisés. On peut avoir des petites figurines, là aussi, de ces hautes personnalités. Et enfin, on peut avoir des dieux auxquels la famille est particulièrement attachée, qui sont autres. Et d'ailleurs, c'est ceux-là.
Est-ce que sur Nîmes, on peut en citer ?
Alors, on peut en citer en sachant que ce sont des hypothèses de chercheurs.
Oui.
Toujours pareil, puisqu'on n'a pas forcément les dieux de provenance, hein, on n'a pas le contexte.
Et ça peut être des dieux importés comme Isis ou...
De toute façon, oui. La Gaule Narbonnaise est très romanisée.
Voilà.
Donc, on a beaucoup de. À part les Proxumes et Sucellus, qu'on a en abondance dans le musée. C'est vrai qu'on n'a pas. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié le Sucellus d'ailleurs dans ce que je voulais vous présenter, mais on pourra en reparler.
Bien sûr. Alors, le Sucellus, il a un capuchon, lui, mais il a une.
Le Sucellus, non, vous confondez avec le. Ah, je vais pas y arriver. Le télésphore.
Et il n'a pas dans son vêtement une capuche.
Sucellus, non, pas forcément.
Ah bon, pas forcément, d'accord.
Non, le Sucellus, c'est le dieu qui ressemble un peu à Jupiter, à
oui,
Jupiter.
C'est la version gauloise de Jupiter.
Un peu, oui. Il a un peu tout parce qu'il est aussi le dieu des tonneaux, des vignerons, du vin. Il a un peu, c'est un peu l'équivalent d'un oui, il est un peu multicarte, c'est un peu le Liber Pater, un peu le Jupiter, un peu puisqu'il a son, il est un peu tonnant lui aussi.
Oui. Hein,
donc et on a une figurine en bronze, mais bon là, je peux pas vous dire si elle est rattachée à une maison, mais bon, elle est un peu grande hein, pour une figurine de l'arrière, mais pourquoi pas. Elle aurait pu typiquement, voilà. En tout cas, elle est belle en bronze doré, magnifique. Effectivement. On a aussi, alors, donc on parle de
toujours du culte.
Du Sucellus. Le Sucellus, il est dans les vitrines religion, dans le secteur religion. Hein. Et d'ailleurs, toutes celles que je vais citer sont dans la vitrine religion, dans les vitrines religion. Il y a donc aussi, j'avais pensé, pour illustrer ce propos, à la petite figurine de Minerve. On a une petite tête de Minerve, toute petite, toute blanche. C'est un calcaire, en fait, qui n'est pas de la région. C'est parce que cette figurine, elle vient du mont Auxois, en fait.
Ah oui, d'accord.
Elle est venue par des
Oui, parce que d'habitude, privée, c'est plutôt fait. Du matériau local,
oui,
de la carrière de l'Anse.
Elle vient d'une collection privée, donc elle a dû être trouvée sur place,
d'accord.
Là-bas, et sur le mont Auxois, en fait. Et donc, du coup, et d'ailleurs, elle a été retrouvée dans un quartier résidentiel. C'est pour ça que je la cite, d'ailleurs. Et donc, dans la vitrine, on a mis que la tête. Mais il faut savoir qu'en réserve, on a d'autres petits fragments. Et c'est comme ça qu'on sait que c'est une Minerve, parce qu'il y a la petite chouette et il y a la tête de méduse sur le plastron. Mais c'est des fragments tellement petits qu'on ne les a pas présentés.
D'accord.
Et donc, on l'a trouvée dans un lieu d'habitation qui s'appelle la Fandrolle au Mont-Auxois, qui est connu pour être un lieu de résidentiel. Donc, on peut supposer qu'elle faisait partie d'un culte privé, cette petite tête de Minerve.
De Minerve.
Et à côté de celle-ci, dans la même vitrine, vous avez une Minerve en bronze, complète, celle-ci, qui vient de Sologue. Et pareil, d'un quartier où on a retrouvé les restes d'une villa. Donc, on pourrait imaginer qu'elle puisse venir du culte domestique. Parce qu'elle est vraiment petite, elle fait 8 cm.
Ah oui, en effet.
Donc oui, c'est tout à fait le genre d'objet qu'on pourrait trouver dans sur l'autel ou dans la petite niche qui sert de culte. Voilà, c'est ce type d'objet. Vous voyez, on n'a pas forcément le détail,
oui.
Mais si on regroupe, vous avez aussi dans le petit Mars ou Thor en bronze doré,
oui.
qu'on connaît bien parce qu'il avait été exposé aussi pour le culte impérial. On l'avait sorti de sa petite vitrine et qui donc vient lui aussi d'un secteur où on a retrouvé quelques une zone d'habitat rural et là on peut supposer que là aussi peut-être il viendrait d'un lieu de culte domestique. Surtout qu'en plus, il a la forme d'un Mars ou le Thor.
Exactement. Et puis, il semble brandir des choses.
Le Mars ou le Thor, il a sa lance,
voilà.
Et son épée. Et il sort directement du culte instauré par Auguste à Rome. Et ce Mars ou le Thor a eu énormément de succès dans tout l'Empire. On en a trouvé une quantité de figurines incroyable en bronze. Donc, du coup, c'est une typologie qui est très connue. C'est vrai qu'on en a une qui est très, très jolie au Musée de la Romanité, dans la vitrine. Je crois qu'il est à côté de la Minerve, d'ailleurs, il me semble, dans la même vitrine. C'est pour ça qu'on l'a exposé, car c'est vraiment une typologie qui remonte à l'époque d'Auguste.
Oui, donc, et vraiment, puis tout début de l'Empire. Avec le désir de renouer aux origines de Rome.
Oui, c'est un culte très, très, très... qui a vraiment eu un succès incroyable, mais vraiment dans tout l'Empire, hein, vraiment... pas seulement parce que comme c'est un Mars guerrier, hein, quand même, on pourrait croire que...
Mars vengeur.
Vengeur,
hein,
ouais. Oui, on pourrait croire que ce serait plutôt dans des régions conquises depuis peu ou fortement militarisées, comme la Rhénanie et choses comme ça. Mais en fait, non, on en trouve vraiment partout. C'est un culte très développé.
Ben, le temps passant tellement vite, nous sommes déjà au bout de la première émission. On se dit à la prochaine.
À la prochaine, pour la suite.
Pour la suite. Au revoir, Cécile.
Alliance Plus.